Bonjour à tous. Le Conseil d'État donne raison aux évêques de France et à plusieurs organisations catholiques et demande au gouvernement de revoir la jauge de 30 personnes imposée pour chaque office. La jauge doit tenir compte de la taille des églises, Mathilde Dehimy en début de journal. Le plaisir d'ouvrir, les petits commerçants autorisés à rouvrir depuis hier selon un protocole sanitaire très strict. À 4 semaines de Noël, les commerces vont tenter de sauver leur année. Invité de ce journal, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. La guerre des images après la forte mobilisation hier lors des manifestations contre la loi sécurité globale. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des policiers frappés par des manifestants, mais aussi celle d'un photographe syrien, le visage tuméfié. Dans ce journal également, le retour possible de la réforme des retraites, suspendue lors du premier confinement. Et puis nous évoquerons la disparition d'une star mondialement inconnue, David Pratt, l'acteur qui interprétait la carrure de Dark Vador. La météo plus calme aujourd'hui mais également plus froide. Vigilance, orange pluie levée en Corse et dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Les églises ne voulaient refuser personne et le Conseil d'État donne raison aux évêques. Premier dimanche de réouverture pour les lieux de culte, des messes sont célébrées depuis hier soir et la jauge fixée à 30 fidèles dans les églises et les lieux de culte ne tient plus. Cette jauge était contestée par la Conférence des évêques de France et ce matin, le Conseil d'État donc donne raison aux évêques et demande au gouvernement d'apporter les modifications nécessaires dans un délai de 3 jours. La jauge doit tenir compte de la taille des églises. Pour les évêques de France, le droit a été rétabli et la raison reconnue. Et ce matin, eh bien, les fidèles se réjouissaient de pouvoir aller à la messe. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Frédéric.
Vous étiez ce matin à l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris.
Et ce matin, à la messe de 10h, la décision du Conseil d'État n'était pas encore tombée et suscitait toujours l'incompréhension de Catherine.
On est très content ce matin de pouvoir revenir. Enfin bon, maintenant on trouve absurde la décision de limiter à 30 personnes parce qu'il y a plein d'églises très grandes dans lesquelles on peut supporter plus de 30 personnes en respectant largement les consignes qu'il y a dans les magasins à partir d'hier.
Les normes de magasin que le père Bruno Lefebvre-Pontalis a donc scrupuleusement appliquées à son église.
Nous avons établi des places avec 8 mètres carrés par personne, des places bien marquées. Bien sûr, ça permet la distanciation.
300 personnes environ sont donc présentes pour une capacité de 1000 à 1200 places. Le père Lefebvre-Pontalis qui attendait beaucoup de cette ordonnance du Conseil d'État.
Je crois qu'il faut le faire pour énerver des catholiques qui sont très très légalistes, très obéissants habituellement. On est confronté à quelque chose où ils se sentent un peu baladés.
Michel va donc pouvoir retrouver des cérémonies religieuses essentielles à ses yeux.
Bon, la messe retransmise à la radio ou sur YouTube, comme ils le font ici, c'est très bien, mais rien ne remplace la participation effective des fidèles avec la communion.
Deux messes ont donc été ajoutées dans le week-end pour accueillir tout le monde, car il n'est pas question, dit le curé de Saint-François-Xavier, de déroger aux règles sanitaires.
Mathilde Dehimy, merci. Les commerces, eux, retrouvent le plaisir d'ouvrir. Une ouverture possible également le dimanche jusqu'à Noël, et avec des horaires également élargis, à condition de respecter un strict protocole sanitaire, et notamment la règle d'un client, un client pour 8 mètres carrés. 200 000 commerces ont pu rouvrir dès hier, et les clients sont revenus, mais pas la foule. Reportage à Westfield, Vélizy 2, en région parisienne, Nathalie Domenego.
Impossible de passer au travers, le gel est partout et pas seulement à l'entrée des commerces. Armelle est gérante d'un magasin de produits de beauté.
On va retrouver du gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les caisses, mais aussi partout dans le magasin, sur les côtés, les présentoirs, vous voyez juste en dessous, il y en a vraiment partout en fait.
Ici, les vendeuses se relaient pour faire entrer les clients, 13 maximum à l'intérieur, clients qu'elles peuvent compter d'un simple regard. Plus compliqué en revanche dans ce commerce voisin, Gosport, nettement plus grand. Là, c'est un agent de sécurité qui a été embauché pour dénombrer les visiteurs à l'aide d'un compteur. Capacité maximum 160, explique le directeur du magasin.
Maintenant, c'est une jauge. L'intelligence locale fera la différence si jamais on se rend compte qu'il y a trop de monde et que même en dessous de 160, la distanciation ne peut être respectée. On bloquera quand même les entrées.
Le protocole gouvernemental est encore plus strict qu'au précédent déconfinement. Yann Toledo, responsable du magasin de prêt-à-porter pour hommes, Fazer & Sœur.
Le vrai changement, c'est qu'il y a encore plus d'espace pour chaque client. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était une personne pour 4 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est une personne pour 8 mètres carrés. Et nous, on a décidé de réduire la masse de vendeurs, de sorte qu'il y ait encore plus d'espace pour les clients.
Et forcément, c'est restrictions entraînent des files d'attente devant certains magasins. Mieux vaut éviter les heures d'affluence entre 16h et 17h30 les week-ends.
Nathalie Domenego de France Bleu Paris. Invité de ce journal, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour Francis Palombi. Bonjour, les commerces ont donc rouvert hier, hein. Les clients étaient au rendez-vous, mais il n'y avait pas foule non plus dans les magasins. Quel retour avez-vous des commerçants après ce premier jour de travail ou de réouverture?
Le maître mot, une grande joie d'avoir pu réouvrir, et j'associerai tout autant les consommateurs. J'étais hier en déplacement à Nantes pour une manifestation contre Amazon à Montbert et j'ai pu découvrir dans Nantes beaucoup de monde. Par contre, vous voyez, c'est nuancé. Parfois, certains ont perdu par rapport à 2019 parce que il y avait le Black Friday en 2019. Il est repoussé. Enfin, sur le principe, il y a déjà pas mal de commerçants qui font le Black Friday, mais bon.
Mais il est repoussé au week-end prochain, oui.
Donc, vous voyez, il y a des différences en province. Il y avait beaucoup de monde. À Paris, vous savez, on dirait que le gouvernement s'est abonné à ce qu'il y ait des manifestations de rue très importantes. Et on ne peut pas dire, pour le moins, hier, avant-hier, c'était très grave, très très grave, ce qui se passait dans certaines rues de Paris. Et il est évident que, comme le disait hier soir un commerçant en chaussures, c'est quasiment impensable que, à chaque fois, nous avons eu les gilets jaunes, après nous avons eu les grèves pour les retraites, et ça tombe toujours à un moment, et là, c'était même plus que symbolique, le commerce réouvrait enfin, et il y avait des manifestations, donc ça n'a pas arrangé certains commerçants de Paris, et j'espère qu'ils vont être indemnisés à 100% de la perte du chiffre d'affaires qu'ils ont vécu hier, malheureusement, à Paris.
Vous allez demander une indemnisation à la Confédération des commerçants de France, au gouvernement?
Oui, on va demander une indemnisation. Et là, cette fois, je vous assure, ça ne s'est pas toujours fait par le passé, au moment des gilets jaunes. Il y a des commerçants qui ont été sur le circuit des manifestations et qui n'ont jamais touché un sou. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas notre faute. S'il y a des manifestations, c'est l'état de droit qui s'applique, qui doit s'appliquer. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la cause, du pourquoi, du comment.
Mais il faut que le préjudice soit reconnu.
Je suis un syndicaliste, mais ce n'est pas normal pour le commerce et il faudra que nous soyons indemnisés.
Que demandez-vous avant, bien sûr, une situation, un retour à la normale, hein, mais que demandez-vous de plus aujourd'hui? Des ouvertures en nocturne, des amplitudes horaires plus grandes, que tout le monde puisse ouvrir le dimanche?
Absolument. Je suis un syndicaliste qui porte les moins de 11 salariés, commerçants, artisans. Je ne suis pas toujours d'accord pour des ouvertures délibérées. Mais là, nous avons été dans le commerce, toutes les formes de commerce, à l'unanimité. Nous voulons réouvrir, nous voulons des amplitudes plus importantes. Nous voulons même que ça gagne le mois de janvier 2021, où il y aura les soldes. Mais par contre, nous, les indépendants mobilisés à l'unanimité, nous ne souhaitons pas que les soldes surviennent avant le 20 janvier. Ce serait une catastrophe sur le plan du fonctionnement économique de nos entreprises.
Mais elles sont prévues.
Elles sont prévues également sur votre antenne.
Oui, vous parlez des soldes, Francis Palombi. Elles sont prévues pour le 6 janvier.
Oui, mais nous avons demandé au ministre, comme le Black Friday, sur le principe, et je redeviens un peu ironique, oui. sur le principe, le Black Friday est décalé au 4. Donc, ouais. Il va se poursuivre dans les jours qui suivront le 4 décembre. Ce n'est pas normal de rester pendant plusieurs semaines tout le temps en promotion, en solde, en vente privée, d'autant que les enseignes, les grands groupes ont largement la faculté de faire des ventes privées, des promotions tout le temps, et y compris, bien sûr, le grand ennemi du commerce physique, les grands du numérique. Et j'étais hier à Montbert, à côté de Nantes, je vous assure, il y avait 10 000 personnes mobilisées pour empêcher la création d'un dépôt Amazon qui a rompu avec l'égalité de concurrence avec le commerce physique. Il faut se battre.
Francis Palombi, il faut se battre. Vous nous dites, il nous reste quelques secondes, mais cette crise sanitaire aura des conséquences terribles et très graves pour l'emploi et l'activité des petits commerces. À combien estimez-vous le nombre de faillites?
Ah, écoutez, le nombre de faillites, il faut le reconnaître, monsieur, l'aide de l'État. L'aide de l'État est présente, elle est confirmée. Nous avons un ministre du commerce d'excellence avec Alain Griset, et il se bat, et avec Bruno Le Maire également, bien sûr, mais ils se battent, ils nous reçoivent, ils collent à l'actualité au quotidien, au jour le jour. J'espère que ce sera le minimum, mais il y aura de la casse, inévitablement. Je ne peux pas ce midi vous donner un chiffre précis. Ce serait pas.
Mais il y aura de la casse, malheureusement. Francis Palombi, merci beaucoup, président de la Confédération des commerçants de France. Merci. C'est une question angoissante pour les salariés vulnérables au coronavirus. Le Conseil d'État doit se prononcer après une requête déposée par plusieurs associations. Certains salariés souffrant d'insuffisance rénale chronique, d'obésité ou de cancer, par exemple, sont poussés à aller au travail par leurs employeurs. Dans un décret publié au début du mois, les règles du chômage partiel sont beaucoup plus restrictives pour ces personnes à risque. Les associations de malades crient au scandale et désormais, un certificat médical ne suffit plus. Les salariés à risque n'ont plus droit au chômage partiel si l'entreprise garantit la bonne mise en place des gestes barrières et des mesures de protection. Une situation qui génère des tensions entre salariés vulnérables et employeurs, Alice Cachener.
Véronique est secrétaire dans un EHPAD. Elle souffre d'obésité, une pathologie particulièrement à risque en cas de contamination au Covid-19. Et pourtant, son employeur lui demande de venir travailler.
En étant dans un accueil, c'est moi qui rencontre toutes les personnes qui rentrent, qui sortent, les résidents, j'ai tout le temps, toute la journée du monde autour de moi. Vous savez qu'en personne à risque, vous pouvez faire une forme grave du Covid. Vous pensez au pire, à mourir, quoi.
Pour avoir droit au chômage partiel, elle a dû solliciter la médecine du travail qui lui a donné raison. Son bureau n'était en effet pas assez sécurisé.
Pour l'instant, je suis en chômage partiel, mais je peux être appelée tous les jours par mon employeur en disant « ça y est, on a mis suffisamment de plexiglas, vous êtes obligé de revenir travailler ». Pour eux, je suis parano, je fais du cinéma. Si je refuse de retourner à mon poste, je risque un licenciement, une rupture conventionnelle.
Le cas de Véronique n'est pas isolée. L'association France Asso Santé reçoit beaucoup d'appels de personnes vulnérables, obligées de se rendre sur leur lieu de travail, relate Catherine Simonin.
Ça met le salarié à saisir la médecine du travail pour faire valoir ses droits. Donc automatiquement, il se met en opposition avec son employeur. S'il n'y a jamais des licenciements économiques dans cette entreprise, évidemment, la personne vulnérable sera en tête de liste.
Plusieurs associations de malades viennent de déposer un recours devant le Conseil d'État.
Alice Cachaner, et vous trouverez d'autres informations sur cette question des personnes vulnérables et l'emploi et le chômage partiel sur franceinter.fr. La mort de Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste et patron de presse à l'âge de 83 ans, Jean-Louis Servan-Schreiber avait fondé l'Expansion et fait le succès du magazine Psychologie. Il est mort des suites du coronavirus. Venons-en maintenant aux manifestations hier en France contre la loi Sécurité Globale qui a donné lieu à une forte mobilisation. 500 000 participants en France, 200 000 à Paris. Selon les organisateurs, 133 000 manifestants en France, dont 46 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, des incidents, des départs d'incendie, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, selon le ministère de l'Intérieur. 62 policiers et gendarmes ont été blessés. Il y a eu 81 interpellations. Un reporter qui couvrait la manifestation, un photographe syrien, a été blessé au visage par des coups de matraque. Plusieurs vidéos montrent également des policiers pris à partie, certains étant frappés à terre, Corinne Audouin.
D'un côté, les images choquantes d'un policier pris à partie par plusieurs manifestants, des jets de pierre, de cocktails Molotov. De l'autre, le visage tuméfié d'Amer Al-Albi, réfugié et photographe syrien, blessé par un coup de matraque. Des images retweetées, commentées à l'infini. Pour Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, il faut sortir de cette confrontation stérile.
Chaque camp diffuse les images qui l'arrangent, qui viennent à l'appui de sa thèse, de sa vision du monde. Et ça ne fait pas un débat public. Bref, c'est vraiment un moment pour défendre le journalisme, au moment où précisément il est attaqué de manière extrêmement virulente, et notamment dans les manifestations. Il est vraiment extrêmement urgent qu'au-delà de la suppression de l'article 24, des mesures soient prises pour mettre fin à ces violences policières, pour imposer aux policiers de respecter la liberté de la presse.
On peut défendre la protection des policiers et celle de la presse, souligne le journaliste, ce n'est pas contradictoire. Pour sortir de cette hystérisation, David Lebars, du syndicat des commissaires de la police nationale, en appelle à plus de transparence.
Il faut faire porter aux policiers des caméras piétons et dans les plus brefs délais, ça n'a que trop traîné. Il faut se donner tous les moyens que cette police-là soit incontestable dans son action. Et ça permettra d'autant plus de protéger le plus grand nombre.
La plupart des policiers, affirme David Lebars, est favorable au port de ces caméras piétons pour montrer la réalité de leurs interventions au quotidien.
Corinne Audouin et le gouvernement cherchent une solution d'apaisement. L'exécutif est bousculé par le télescopage entre la contestation de la loi sécurité globale et l'émotion suscitée par les violences policières et notamment le passage à tabac du producteur Michel Zecler. La sortie de secours ne pourra pas être une nouvelle écriture de l'article 24 du texte sur la sécurité globale qui pénalise la diffusion malveillante d'images de policiers. Yaël Braun-Pivet, présidente LREM de la commission des lois à l'Assemblée nationale, était ce matin l'invitée de questions politiques sur France Inter.
Sur l'objectif de cet article 24, nous sommes tous d'accord. Il faut que l'on protège nos forces de l'ordre de vindictes sur les réseaux sociaux. Moi, dans ma circonscription, encore il y a quelques jours, à Sartrouville, j'ai un policier qui a reçu des tirs de mortier sur sa maison parce que il était mis en cause dans l'exercice de son activité professionnelle. Donc il faut garder nos forces de l'ordre de ce type d'agissement. Et il faut donc les protéger. Maintenant, je vois bien, et je l'entends, il faudrait être sourd pour ne pas l'entendre, que ce que nous avons aujourd'hui proposé et voté pour assurer cette protection n'est pas satisfaisant. Donc évidemment qu'il faut revoir notre copie, qu'il faut retravailler, refaire des auditions, poursuivre notre réflexion juridique avec tous les intéressés. Et ça, ça n'est que finalement le travail habituel du Parlement.
Yaël Braun-Pivet à question politique ce matin avec Ali Badou. Autre sujet potentiellement inflammable, la réforme des retraites. Ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, explique dans le journal Le Parisien que cette réforme suspendue en mars dernier doit être la priorité du gouvernement en 2021. Si ce dossier revient sur la table, il y aura un conflit, prévient Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.
C'est une erreur, une grave erreur. Il y a une forme d'obstination. N'oublions pas que ce sujet a fait l'objet d'un conflit social majeur. Il s'est terminé par un 49-3 au pire des moments au début de la crise sanitaire. Et s'il devait revenir, il donnerait lieu à un conflit. Et notre détermination là-dessus, elle est intacte. Ça n'est pas non plus le moment, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'important, c'est de trouver le moyen que tout un chacun ait un emploi jusqu'au moment de partir à la retraite. Et nous dire qu'il va falloir travailler plus longtemps alors que dans les entreprises où on annonce des suppressions d'emplois, on s'efforce d'éviter les licenciements et au final, c'est plutôt des départs anticipés à la retraite, ce serait complètement contre-productif que de nous dire qu'il va falloir travailler plus longtemps ou baisser les pensions. Ce serait rajouter du conflit et je ne crois pas qu'on en ait besoin.
Yves Verrier avec Claire Chaudière.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Asmara à nouveau frappée par des tirs de roquettes. 6 explosions ont eu lieu ces dernières heures dans la capitale de l'Érythrée. Les rebelles du Tigré, une province de l'Éthiopie à la frontière avec l'Érythrée, ont multiplié ces dernières semaines les attaques. Les opérations militaires ont démarré le 4 novembre dernier. Hier soir, le premier ministre éthiopien a annoncé avoir repris le contrôle de la province dissidente du Tigré, Noé Ouchet-Boudin.
Abiy Ahmed l'assure, tout est sous contrôle à Mekele, l'aéroport, le siège du gouvernement régional ainsi que les principales administrations après 24 heures de combat. Une information toujours invérifiable à l'heure qu'il est car personne ne peut être rejoint dans le Tigré sous blackout des télécommunications depuis un peu moins d'un mois. On craint évidemment pour les 500 000 habitants de Mekele à qui l'armée ne promettait aucune pitié lors de l'assaut. Des dizaines de tirs d'artillerie ont en effet été entendus sur la ville. Les questions se succèdent ce midi. La ville est-elle complètement reprise? Les forces tigréennes ont-elles fui? Les bombardements ont-ils cessé? Aucune confirmation pour l'heure des deux côtés, ni de la part du parti tigréen TPLF, ni du gouvernement. La télévision d'État éthiopienne n'a étrangement pas encore diffusé d'images de la ville. Alors est-ce que cet épisode signe la fin des combats en Éthiopie? Rien n'est moins sûr. Le parti TPLF affirme à l'agence Reuters que la guerre continuera car il s'agit pour eux de défendre leur droit à l'autodétermination. Rappelons que le parti est très militarisé. Il a été créé dans les années 1970 pour, à l'époque, déjà mener une guérilla. Addis Abeba, Noé Ouchet-Boudin, France Inter.
C'est une star mondialement inconnue, le plus grand méchant du cinéma, Dark Vador, l'acteur britannique David Prowse, qui était l'un des 3 acteurs qui incarnait Dark Vador à l'écran, est décédé hier. David Prowse, ancien haltérophile, était la carrure de Dark Vador. Londres, Maxence Peignet.
Beaucoup ne connaissaient ni son visage ni sa voix, mais son impressionnante carrure se cachait sous le costume le plus célèbre du cinéma. David Prowse, l'acteur britannique incarnant Dark Vador dans la première trilogie Star Wars, s'est éteint à l'âge de 85 ans. haltérophile devenu comédien, c'est d'abord sa taille, 1m98, qui avait tapé dans l'œil du réalisateur George Lucas. Mais son fort accent du sud-ouest de l'Angleterre était moins convaincant. La voix du côté obscur de la Force fut donc interprétée par James Earl Jones, auteur de la réplique légendaire « Je suis ton père ». Même le visage qui apparaît sous le masque dans Le Retour du Jedi n'était pas le sien, mais celui de Sebastian Shaw. David Prowse était un habitué des rôles costumés et avait plusieurs fois incarné le monstre de Frankenstein. George Lucas lui avait d'ailleurs aussi proposé de jouer le Wookiee Chewbacca, mais David Prowse ne s'y était pas trompé en rétorquant « Tout le monde se souvient du méchant ». Londres, Maxence Peignet, France Inter.
Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Des éclaircies cet après-midi, mais pas généralisées, car les brouillards et les grisailles auront parfois du mal à évoluer, en particulier au nord de la Seine, sur la plaine d'Alsace et du Val-de-Saône au Lyonnais, dans des températures plus fraîches qu'hier sur un grand quart nord-est, avec un maximum de 4 degrés de Nancy à Strasbourg, 6 à Lille et Lyon, 7 sur l'Île-de-France, 10 à 13 sur le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes et la Bretagne. Des valeurs tout de même plus douces sur les régions méridionales, de l'ordre de 17 en moyenne du sud-ouest à la Provence et 19 sur la Corse. La nuit prochaine, forte gelée jusqu'à moins 5 degrés sur les régions du centre et de l'est, avec, comme ces derniers jours, de fréquents paquets de brouillard et de nuages bas en matinée. Le changement va s'opérer en cours de soirée par le nord de la Seine avec l'arrivée d'un ciel maussade qui pourra donner des flocons et ponctuellement de la pluie verglaçante sur les régions du nord-est dans la nuit de lundi à mardi.
Jean-Michel Golinski de Météo France.